Votre émission sur RMC avec Pluto TV. Plus de 130 chaînes gratuites en streaming. Pluto TV, streamer, c'est gratuit. Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Oui, enfin, c'est Roten sans flamme, mais sans Roten. Hein. Y a que Jean-Louis Tour. On aurait pu appeler ça Tour sans flamme, mais ça fait bâtiment en feu.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
Et oui, c'est Roten sans flamme, comme depuis 10 jours maintenant, ce sera le cas jusqu'à lundi prochain. Roten sans flamme est de retour après la première journée de Ligue 1. Jérôme, lui, finit ses vacances tranquillement. Il sera de retour lundi prochain, mais en attendant jusqu'à 20h, coach Courbis est là pour vous accompagner. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Ouais, j'ai eu Jérôme au téléphone aujourd'hui. Je peux te dire qu'il est à bloc, hein, sur tous les sujets d'actu et tout. Lundi, à mon avis, il va mettre le feu parce qu'il trouve que les vérités ne sont pas assez dites.
Bah ouais.
Sur certains cas.
Il y en a eu assez de feu dans
sa vie.
Il sait.
Ah oui, ça c'est vrai. Alors avec toi coach, on va débattre autour du mercato. Avec les rendez-vous habituels de Roten sans flamme, à 18h30, l'accusé du soir, ce sera Adrien Rabiot, accusé de se tromper avec ses exigences visiblement démesurées à Manchester United. 32-16, appelez-nous pour participer au débat. À 19h, l'ADN OL. Est-ce que ça va vraiment marcher? Peter Boss en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. On vous attend là aussi pour en débattre. Et puis on aura des infos mercato autour de Cristiano Ronaldo à vous donner. Et les rendez-vous, je vous le disais, de Roten sans flamme sont là. Julien Cazard avant 19h, le quiz avant 20h avec des montres à gagner. Et en plus de cela, le ring des supporters autour de Nice, ce sera tout à l'heure à 19h30. Mais tout de suite, le PSG fait sa brocante.
Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui?
Il risque d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Ça permettra de vendre plus vite, plus souvent et plus cher.
Je veux dire, il faut, avant même de pouvoir travailler avec un groupe, il faut déjà le désengraisser. Oui, ça peut marcher sur la scène hexagonale.
Posez-vous la question, est-ce que ce que j'ai à vendre est dans l'intérêt de mon interlocuteur?
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'ECA, de tous les grands clubs européens. Tragique, mais tellement prévisible. Il y a la jurisprudence en Italie.
Manu Petit qui sera de retour lui aussi à partir de la semaine prochaine, hein, dans Roten sans flamme avec toute l'équipe autour de Jérôme et des surprises. Alors le PSG, avant d'y aller pour débattre autour du dégraissage, on va faire comme depuis le début de la semaine des allers-retours avec Rome, les championnats d'Europe de natation. Julien Richard nous appelle pour une course importante. Salut Julien.
Oui, salut Jean-Louis, salut à toutes et à tous. C'est la dernière soirée de finale ici à Rome pour ces championnats d'Europe de natation. Et pour terminer, on a un 50 mètres nage libre avec Maxime Grousset, médaillé de bronze il y a un mois à Budapest. Donc en finale, le départ à l'instant donc de cette finale avec un grand favori, les Britanniques, qui s'appelle Ben Proud, champion du monde justement il y a 6 semaines à Budapest et qui a impressionné lors des demi-finales. Maxime Grousset au pied du podium sur le 100 mètres et qui a à cœur de tenter de prendre une revanche sur ce 50 mètres nage libre. Il est pas très bien parti, Maxime Grousset. Ben Proud, sans surprise, est en train de prendre les commandes. Il est dans le paquet là, Maxime, et il ne touchera pas malheureusement sur le podium. Ce sera pour le Français une 5e place, 21 secondes 87 centièmes. Il n'est pas au niveau de son record personnel, il aurait fallu le faire. Ça ne suffit pas donc pour monter sur le podium pour Maxime Grousset, 5e de cette finale du 50 mètres nage libre.
Merci Julien Richard, donc à Rome pour les championnats d'Europe. Le PSG donc est en plein dégraissage. On va rentrer dans le détail, mais on vous attend pour débattre ces différents départs. Est-ce qu'elle est là la clé de la réussite pour le club parisien cette saison? 32-16 bien sûr, on va vous donner la parole, mais d'abord Clément Brossard nous rejoint. Salut Clément.
Salut Jean-Louis, salut coach, salut à toutes et à tous.
Faisons le point sur l'état de ce fameux loft, les indésirables parisiens qui commencent à se réduire.
Le loft réduit, en effet, petit à petit, avec l'officialisation du départ de Thilo Kehrer cet après-midi, direction West Ham pour le défenseur allemand. Il a signé pour 4 ans, plus 2 ans en option, et ça va rapporter environ 12 millions d'euros sans les bonus dans les caisses parisiennes. C'est pas encore officiel en revanche, mais ça bouge pas mal pour 3 autres joueurs. D'abord, Gana Gueye, qui pourrait prochainement s'engager avec Everton. La tendance est un transfert pour celui qui est en contrat jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain. Lui est d'accord avec les Toffees, qui le suivent depuis plusieurs années, notamment Frank Lampard. Reste à trouver un terrain d'entente financier, notamment avec Everton. De son côté, Ander Herrera devrait rejoindre l'Athletic Bilbao. Marca annonce en Espagne avant demain soir. Il devrait résilier son contrat, ce qui va coûter quand même quelques millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et puis il y a aussi Dina Ebimbe, lui qui est d'accord avec Francfort de son côté. Là encore, Paris doit s'entendre avec le club allemand, mais on serait proche d'un accord autour de 7 millions millions d'euros. Pardon. Il resterait alors dans le loft deux joueurs, Mauro Icardi, qui lui se montre assez gourmand financièrement, et Levin Kurzawa, qui a un salaire très élevé et qui, il faut dire, n'attire pas énormément de clubs. Il y a très peu de sollicitations pour ce genre-là. Également Rafinha, parce qu'on a tendance à l'oublier. Lui, il a des propositions, mais pas des propositions qui sont à son goût pour le moment.
Très bien, merci Clément, reste avec nous. Coach, est-ce que selon toi, la saison dépend de la capacité des dirigeants parisiens à sortir ces joueurs-là, à réussir à réduire...
C'est-à-dire la saison?
Bah, la réussite de la saison.
Ah ben, ça en fait partie.
Ouais.
Pour moi, j'ai une habitude, et pour le moment, tant qu'on ne m'aura pas prouvé le contraire, je ne changerai pas. C'est que je pense qu'il y a plusieurs championnats, le championnat de l'intersaison, et après le championnat qui commence avec la Coupe de France, et évidemment la Champions League. Et dans ce championnat de l'intersaison, ben, je pense que... Il faut penser à beaucoup de choses. C'est difficile de penser à tout, mais des garçons aussi compétents que Campos, même
Antero Henrique.
Voilà, donc qui bossent ensemble, plus Christophe, plus Nasser. Ça fait quand même un quatuor là de personnes compétentes. Et en plus de ça, ces personnes-là ont les possibilités financières pour faire pratiquement ce qu'on a envie de faire. Et souvent, ben, il faudra regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan financier. On essaye de suivre, mais on peut pas y arriver parce que les difficultés pour le Paris Saint-Germain jusqu'à aujourd'hui, ça a été de se séparer des joueurs avec des trop gros salaires. Mais arriver à un certain moment, si tu n'as pas la bonne solution, ben, tu trouves logiquement la moins mauvaise. Et s'il faut donner une partie des salaires à un joueur qui a été acheté avec un salaire trop élevé, ben, c'est mieux que de garder ce vestiaire avec 30 joueurs qui est tout simplement insupportable pour la bonne atmosphère, la bonne ambiance et la gestion du coach. Donc je crois que ce qui se passe là était tout simplement indispensable. Maintenant, on a pour habitude dans les stats, tu vois, par exemple, quand tu dis but marqué et passe décisive. Ouais. Donc moi, je rajoute toujours les avant-dernières passes décisives, elles sont importantes. OK. Mais là, il faut que tu penses aussi combien ça a rapporté le mercato au Paris Saint-Germain. Eh bien, ça a rapporté au Paris Saint-Germain tant de millions sur les transferts, mais n'oublions pas les salaires. Et les salaires, une partie des salaires, ben, on a été obligé d'en sacrifier une partie en donnant un chèque aux joueurs pour qu'ils partent. Donc, il y a aussi le nombre de millions qui aura été récolté, plus les salaires qui auront été économisés, ou une partie des salaires qui auront été économisés, ça fera, je pense, une énorme somme.
Et si je te suis, en plus, Roland, dans ton raisonnement, toi, Icardi, par exemple, tu lui fais un chèque pour qu'il parte.
Ben au moins sur une partie.
Ouais, il reste 2 ans de contrat.
Ben écoute,
essaie de lui vendre, on te paye une année de contrat et voilà.
Ben écoute, je pars toujours d'un principe que j'ai gardé depuis de longues années. Quand il n'y a pas de bonne solution, ben j'essaie de trouver la moins mauvaise. Et la moins mauvaise, c'est pas de voir tous les matins ben Icardi venir dire bonjour, comment ça va. Ouais. Ben ça va, bonjour, ça va, mais si des fois tu t'en vas, ça va encore mieux.
Clément, il y a le point aussi sur d'autres dossiers. Alors ils sont pas dans la catégorie indésirable, mais ils devraient quitter le PSG.
Voilà, ils font pas partie du loft à proprement dit. Il y a Leandro Paredes qui a un accord personnel avec la Juventus, mais son arrivée à Turin, elle serait conditionnée à un départ d'un ancien parisien, de Adrien Rabiot, du côté de Manchester, mais pour l'instant ça bloque. Et puis pour terminer, il y a Navas, Keylor Navas, qui chaque jour un peu plus se rapproche de Naples. Là aussi, il y a un accord entre le joueur et le club italien, et le PSG et le Napoli doivent désormais trouver un terrain d'entente sur les modalités de transfert. Est-ce que ce sera un prêt avec option d'achat ou un transfert à eux de gérer ça?
Oui, coach, tu voulais acheter un
mot? Si tu veux, bon, après, chacun a ses joueurs préférés. Moi, en ce qui concerne mon gardien préféré, il y en a deux. Il y a Navas et Maignan. Donc là, quand je vois Navas qui part, je me dis, c'est vrai que la réponse à ça, c'est qu'on joue sur l'avenir. Il y a dû y avoir des discussions, et là aussi, c'est peut-être pas la solution extraordinaire, mais c'est la moins mauvaise. Parce que pour le présent, dans les 12 mois à venir, je regarde pas la date de naissance, ni le lieu de naissance de Navas. Je regarde les arrêts qu'il fait, je regarde l'expérience qu'il a.
Tu regardes les arrêts que Donnarumma ne fait pas?
Écoute, là... Attention, on touche du bois, parce que sinon, il y a Julien qui va me mettre encore dans une histoire de Skoumoune, que je porte à la Skoumoune.
Julien Cazard.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, mais le présent, c'est Navas pour moi. C'est pas, oui, c'est pas Donnarumma, même si il a été nommé meilleur buteur,
tu vois, c'est gardien de l'Euro.
Donc meilleur gardien de l'Euro. Eh ben pour moi, il est pour le moment pas encore aussi bon que Navas. Donc ça le sera certainement dans les 2-3 ans à venir. Mais dans les 2-3 ans à venir, c'est pas ça qui intéresse Paris Saint-Germain. Ce qui intéresse Paris Saint-Germain, c'est les 12 mois à venir.
Alors on a Damien qui nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Salut Damien, bienvenue.
Salut Jean-Louis, salut coach. Vous allez bien?
Ah oui, et toi alors?
Ben, la pleine forme, c'est les vacances, on profite. Ah ouais. On profite à fond, on suit l'actualité tranquillement, au soleil. Ça fait du bien.
Bon, très bien, très bien. Alors justement, l'actu, c'est les départs pour le PSG. C'était un moment important pour avoir une bonne saison, selon toi ?
Alors, pour avoir une bonne saison, pas forcément, parce que de manière, les joueurs qui partent là, ça fait des années qu'ils auraient dû partir. Et je pense que dès le début du mercato, enfin dès la prise de fonction de Luis Campos, ils ont été clairs sur ce qu'ils voulaient faire de ces joueurs. Et du coup, je pense que dans la saison, ils auraient été moins impactants sur le groupe que ce qu'ils pouvaient avoir sur les autres saisons où les entraîneurs, on a l'impression qu'ils n'avaient pas trop le choix que de les faire jouer. Ils n'osaient pas trop les placardiser, alors que c'était clair, net et précis. Ils n'allaient pas jouer de la saison. Moi, je me rappelle que sur d'autres saisons, on faisait jouer des Kerrer qui n'avaient pas le niveau, Draxler qui mettait pas un pied devant l'autre. L'année dernière, on a fait jouer Wijnaldum pendant toute la saison, alors que il y avait des jeunes derrière qui poussaient à la porte, qui avaient envie de jouer et qui pouvaient pas jouer à cause de ces joueurs-là.
On l'a fait jouer pas à son poste.
Ouais, pas à son poste, mais pas que lui. Je parle de, il y a plein de joueurs qu'on a fait jouer, alors que il y avait des jeunes du centre de formation qui poussaient à la porte, qui eux auraient mérité un peu de temps de jeu et qui ne jouaient pas parce que le coach, il avait pas forcément les mains libres ou pas forcément la possibilité de les mettre sur le banc. Alors que là, Luis Campos, il avait été clair avec eux, donc ils n'avaient pas le choix que de partir. Donc oui, c'est une bonne chose qu'ils partent et encore heureux qu'ils partent parce que eux, pour eux, s'ils ont envie de faire quelque chose avec leur sélection, parce que Kerrer, par exemple, on va prendre le cas de Kerrer, il y a encore quelques temps, sélectionné en équipe d'Allemagne. Donc s'il veut retrouver une place pour la Coupe du Monde, il a intérêt de jouer. Et c'est pas au PSG qu'il aura joué cette saison. Donc il y a certains joueurs qui ont une conscience professionnelle minimum. On va pas parler de Kurzawa, par exemple. Mais certains, s'ils ont un minimum de conscience professionnelle, c'est normal qu'ils partent. Parce que clairement, avec l'effectif qu'on a, les recrues qui ont été faites cette année, il y en a certains, ils n'auront pas de temps de jeu.
Damien, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt sur RMC.
Merci à vous.
T'es infidèle, pardon. N'hésite pas à nous rappeler au 32-16. Julien Richard, la natation, les championnats d'Europe à Rome. Une nouvelle course en dos. Non.
Avec deux Français dans cette finale du 100 mètres d'eau, Johan Endoy-Brouard et Mewen Tomac. Johan Endoy-Brouard qui a réalisé le meilleur temps des demi-finales, mais il aura très très fort à faire face à l'Italien qui a pas fait grand chose en demi-finale, qui s'est bien caché. Thomas Tchekhon, recordman du monde, champion du monde il y a 6 semaines à Budapest, et il est devant son public. Je peux vous dire qu'ils sont tous venus là pour lui, le grand Thomas Tchekhon, et la course va très certainement se jouer entre lui, Johan Endoy-Brouard et Apostolos Christou à la ligne d'eau numéro 5, le grec qui a gagné le 50 mètres d'eau ici dans ces championnats d'Europe. Johan Endoy-Brouard a lui gagné le 200 mètres d'eau. Passage à la mi-course, il est en troisième position, Johan Endoy-Brouard, derrière Thomas Tchekhon qui est déjà bien en tête. Apostolos Christou, le grec, en deuxième position, et donc Johan Endoy-Brouard pour l'instant en troisième position, à moins de 15 mètres maintenant de la fin de ce 100 mètres d'eau. Ça ne devrait plus bouger maintenant les positions, avec la victoire pour Thomas Tchekhon. Apostolos Christou en deuxième place et Johan Endoy-Brouard qui décroche comme l'an dernier la médaille de bronze européenne sur ce 50 mètres d'eau. 52 secondes 92 centièmes, le chrono est excellent. Médaille de bronze, la 11e pour l'équipe de France dans ces championnats d'Europe.
Merci Julien, merci Clément Brossard.
Merci à vous, bonne
soirée. Ces infos. Sachez qu'on a lancé sur le Twitch d'RMC Sport, où vous pouvez nous voir en direct, le sondage suivant: les départs sont-ils la clé du PSG? Vous répondez oui, mais seulement à 41%. Donc vous êtes plutôt majoritaire à dire que non, ça se jouera ailleurs, la réussite de la saison parisienne.
Ça pourrait être une des clés.
Exactement.
Il y a un trousseau.
Et dans les autres clés, dans ton trousseau, coach, il y a peut-être la discipline. Et il y a plusieurs infos qui sortent sur la discipline. J'aimerais bien avoir ton avis dans un instant, puisque nos confrères sortent notamment qu'on a resserré la vis sur les repas. Ton avis, coach, dans une seconde, et on débat sur Rabiot aussi tout à l'heure. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h16. c'est Roten sans flamme, sans Jérôme Roten, mais avec coach Courbis ce soir jusqu'à 20h, avec nos débats autour du mercato. Adrien Rabiot sera accusé de ne pas être lucide sur les exigences qu'il a à Manchester United. Ce sera le fait d'entrer l'accusé de 18h30 comme tous les soirs dans Roten sans flamme, et comme tous les soirs avant 19h, Julien Cazard sera avec nous. Alors on est sur le PSG, on a parlé des différents départs, il y a des infos que relaient nos confrères du Parisien. Alors c'est pas la première fois depuis le début de l'été qu'on note ce genre d'infos, puisque la nouvelle équipe dirigeante serre la vis à Paris. Plusieurs règles de vie ont été instaurées, notamment par Luis Campos. Il y a notamment un nouveau nutritionniste qui est arrivé, un Espagnol. Donc voilà ce que disent nos confrères du Parisien. Par ailleurs, eh bien, l'une de ses premières mesures, ça a été de supprimer le coca et l'ice tea, deux boissons très sucrées.
Et le whisky aussi.
Oui, c'est ça. Non, alors, coca et ice tea, c'était bien dedans. Donc voilà. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que ce soit le cas avant, que ces boissons-là soient disponibles à table auparavant. Alors, visiblement, c'est peut-être lié au fait que coca soit un partenaire officiel du PSG. Mais en tout cas, voilà.
Ben non, tu le supprimes.
Bah, c'est pour ça qu'il le laissait avant sur les tables, tu vois.
Non, je passe pas. Je te taquinais. Non, je pense qu'il est tout simplement indispensable aujourd'hui, avec le niveau qui a augmenté, les obligations pour faire les performances, ben de prendre appelons ça des précautions. Alors après, on va pas jouer sur les mots, mais dire qu'on interdit le coca, disons plutôt qu'on le déconseille. Bon, après, si par exemple tu bois deux gouttes de coca, mais ça va pas non plus te détériorer. Faut quand même pas non plus déconner. Mais c'est vrai que boire du coca sans arrêt, quand on sait que quand on a mal au ventre, on est bien content de boire du coca, c'est que ça a des effets quand même efficaces sur l'organisme. Alors c'est vrai que pour un sportif, ben si un diététicien qualifié, compétent te le déconseille, ben il faut l'écouter.
Oui, ça c'est sûr.
On va pas l'écouter en disant si tu bois du coca, je vais te mettre une amende. Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Oui, parce que dans les mesures également de règles de vie, il y avait annoncé plus de téléphone à table, plus de téléphone dans les moments là.
Alors bon, mais c'est vrai qu'on va finir par.
Sauf que les joueurs mettent plein de stories à table. Hein,
mais bon, oui, mais bon, on va finir par regarder certains détails qui sont tout simplement. Tout à fait logique. Quand par exemple tu manges, tu peux rester 30 minutes ou 45 minutes sans ton portable à table. C'est tout simplement là pas un problème de discipline, c'est un problème d'impolitesse là. Je m'imagine pas avoir besoin de dire à mes joueurs. Hop, et puis pendant la causerie aussi, quand je vous parle, on fait pas les SMS, hein. Des amis, des colons pas là. Où
ça paraît être le béaba, effectivement. Et puis alors dans les nouveautés, Campos veut sanctuariser le vestiaire de l'équipe première, que ce soit au camp des loges ou au parc des Princes, parce que visiblement, dans le vestiaire, il y a des gens qui passaient. C'était pas une salle vraiment sanctuarisée pour les joueurs. Du passage de personnes qui étaient plus ou moins éloignées du sud.
Moi, je suis d'accord à 200%. Je crois qu'un vestiaire en plus d'une équipe aussi importante que ça, ça me paraît être la moindre des choses, que c'est pas un moulin.
Oui, ça c'est vrai. Mais bon, tout ça paraît être le béaba. On se demande ce qui se passait avant, en fait.
Je te dis tout à l'heure, tu vois, on va sortir, il y a un boulanger, hop, il fait du pain, lui.
Bon, même si toutes ces règles n'empêchent pas quand même que le PSG soit rattrapé par certains démons, on l'a vu avec
oui,
Neymar.
Mais là, je dis bravo à tout ce qui se fait, mais ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui aurait dû se faire. C'est pas si tu veux une nouveauté, comme tu pourrais dire tiens le football il va se jouer à 12.
Oui,
non, là il y a certains petits détails qui me paraissent être évidents. Eh bien, si ça n'était pas fait, mieux vaut tard que jamais, on va se servir de ce proverbe.
Et alors, d'ailleurs, coach, je sais que tu n'aimes pas trop faire ça, te mettre à la place des coachs en place, mais imaginons, ouais. Tu es à la place de Christophe Galtier, tu as le cas Neymar-Mbappé à gérer. Mbappé qui boude, etc., après le match de Montpellier. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères le truc? Qu'est-ce que tu dis à chacun des deux?
Alors, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais c'est très difficile aussi de me poser cette question, même si j'ai pour habitude de ne pas prendre de joker. Faudrait-il encore que je sois au courant des discussions qu'il peut y avoir avant, puisqu'on m'a obligatoirement parlé de cette histoire de penalty. Quand je vois Mbappé devant moi, quand je vois Neymar, quand il fête son but avec ses deux machins et la langue qui sort. Je me dis là, effectivement, sur le plan intellectuel, j'ai pas les mêmes joueurs. Donc il va falloir quand même que je fasse gaffe. Messi, là, qui, lui, ne dit pas un mot et se retrouve aujourd'hui avec une tête sympathique et un sourire qu'il n'avait pas, et Christophe l'a souligné. Donc, ce problème-là, je ne peux pas te dire aujourd'hui qu'est-ce que j'aurais fait. C'est sûr que j'en aurais parlé, j'aurais pas eu besoin de l'aide de Campos pour justement régler ce problème-là. Je l'aurais réglé dès le lendemain, mais je l'aurais pas obligatoirement réglé avec tous les deux en même temps, deux tête à tête, et après, une discussion et un résumé dans tout le vestiaire. Je pense que c'est ce que j'aurais pu faire. Mais bon, après, je suis pas sûr de ça, puisque je sais pas ce que j'aurais dit avant.
Oui, et tu ne sais pas aussi forcément ce que le club
a promis. Mais non, mais je j'aurais dit avant, après, en tête à tête, je lui demande clairement, tu me prends pour un con ou tu me prends pour un entraîneur de 15e division?
Oui, et tu ne sais pas non plus ce que le club a notamment promis à Mbappé au moment de prolonger.
Oui, voilà. Mais je sais pas non plus la relation qu'il y a pu y avoir avec Neymar à l'intersaison. Ce que je sais, c'est qu'il a prolongé de 5 ans. Donc on a le temps de l'avoir, sa langue.
Ah oui, oui. Mais pas à cette intersaison-là, mais auparavant, il est prolongé.
Oui, donc si tu veux, là, maintenant, ce qu'il faut qu'on regarde aussi, puisqu'on est des passionnés, et on essaye aussi de regarder le moindre détail, pour le moment, il y a effectivement cette coïncidence qui fait que dans 3 mois, il y a une Coupe du Monde avec un Neymar qui prend les choses au sérieux.
Oui.
Maintenant, on va suivre avec beaucoup d'attention ce qui va se passer. Et on est là en train de regarder un petit peu ce qui se passe avec 3 joueurs. Je ne sais pas si on se rend compte, mais nous avons en France une équipe de football et un club qui a dans son attaque Messi, Mbappé et Neymar. Eh bien, c'est vrai que il y a quand même une obligation, je dirais pour moi, ou une habitude d'être curieux et de savoir ce qui se passe dans la relation. On s'est penché sur le problème défensif, les trois ils peuvent pas jouer en Champions League, tout ça. Ça, je l'ai toujours contesté, mais je sais pas si j'ai raison. Ce que je sais, c'est que je suis pas d'accord. Et là, on va voir dans un autre système, dans une autre formule, avec des changements différents, profiter plus de ces changements, ne pas avoir un problème de dire à Lionel Messi, mais dans ce match-là, tu sortiras à la 60e ou peut-être non, à la 61e, donc si des fois il y a eu un corner qui s'est fait retirer, et toi pareil, et le prochain match tu en joueras que 30, donc ça me paraît être impossible, mais c'est tellement une évidence que je suis persuadé que Christophe arrivera à gérer ces changements.
Ça paraît simple, effectivement. Thomas nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Salut Thomas.
Roland.
Salut Thomas.
Alors, Thomas, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles règles de vie, de cette nouvelle discipline qui est là? Tu te dis c'est très bien, le club se remet à l'endroit, ou tu dis bon attention quand même, hein?
Mais non, mais je me dis pas c'est très bien. Pour moi, c'est une formalité. Ce sont des choses que chaque sportif de haut niveau doit concevoir, en fait, de faire attention à son alimentation et ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que l'alimentation de toute façon qui fait un grand joueur. Il y a tout ce qu'il y a autour, le sérieux. En fait, ça fait partie du sérieux. C'est une chose banale pour moi, mais bon, après voilà, dans ce cas-là, Campos, il a aussi intérêt de, je sais pas, il pourra dire à Verratti d'arrêter le tabac, par exemple, ce serait bien aussi. Donc c'est juste une question de sérieux de la part des joueurs, et voilà, puisqu'au final, ils ont pas le droit au coca au camp des loges, mais si, je veux dire, le joueur qui rentre chez lui le soir, il a le droit au coca de toute façon, s'il veut. Ouais. Donc je pense que c'est juste une question de bonne foi, d'être sérieux, de se comporter comme un vrai joueur professionnel, je pense. Voilà.
Oui, et ça montre bien aussi que ce qu'on disait l'année dernière ou les saisons précédentes sur un espèce de relâchement qu'il y avait dans tout ça, c'était pas une vue de l'esprit, quoi. Voilà, ça existait. Non, mais
je pense qu'il y avait forcément des passe-droits ou peut-être que voilà, ces choses-là, on va dire, peut-être on dit infime, ce n'est pas forcément regardé de très près au camp des loges, mais c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui a fait éliminer le PSG à Madrid mars dernier. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de rigueur en fait, et d'imposer on va dire des règles strictes au camp des loges. Ça va dans la logique en fait de Galtier Campos depuis qu'ils sont arrivés en fait, du binôme.
Voilà. Ben voilà, on a justement la certitude maintenant, si besoin de la voix, qu'il y a un duo en place dans le vestiaire avec un coach et son staff. Et Campos, donc ce qui se passe là, c'est tout simplement la construction d'une atmosphère. Ce qui se passe après sur le plan tactique, en fonction des adversaires, les compositions d'équipe, les changements. Eh bien ça sera dans ce que j'appelle le deuxième championnat. Dans le premier championnat où on donne les règles pour augmenter les chances de réussite, ben tu n'en es pas sûr, mais au moins tu as augmenté, tu n'es pas sûr de réussir, mais tu as augmenté les chances. Ben voir ce qui se fait là entre Campos et Galtier, tu comprends mieux que il y a une énorme différence avec ce qui ne se faisait pas avant.
Exactement.
Et donc là, on est tout simplement en train de voir des choses qui sont très intéressantes, mais logiques.
Et normales. Merci Thomas d'être venu au 32-16. Ouais, à bientôt sur RMC. Dans une seconde, Adrien Rabiot au programme. C'est l'accusé de 18h30, accusé d'avoir des exigences démesurées par rapport à son niveau. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h30, c'est Rotten sans flamme avec Coach Courbis ce soir qui vous accompagne jusqu'à 20h, car Coach n'est pas en vacances, contrairement à Jérôme Rotten qui se repose encore un peu et qui sera de retour lundi.
Jérôme, coucou.
Il sera de retour lundi à 18h. Bah, tu fais bien de dire coucou parce que je suis sûr qu'il nous écoute, comme vous qui rentrez de la plage peut-être en ce mois d'août.
Bah, il vérifie si on dit pas trop de conneries.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis je peux te dire qu'il a envie de réagir en écoutant. Donc Jérôme sera de retour lundi prochain, mais en attendant, les rendez-vous habituels de Rotten sans flamme sont là à 18h45, le Casar enchaîné, le journal du foot de Julien Casar. Mais tout de suite, place au dossier Rabiot.
RMC, Rotten sans flamme.
Faites entrer l'accusé.
Tous les soirs dans Rotten sans flamme, un acteur du foot est l'accusé de 18h30. Ce soir, c'est Adrien Rabiot, donc, accusé d'avoir des exigences en décalage avec son niveau. On lance cette accusation car plusieurs médias évoquent des sommes folles réclamées par le clan du Français à Manchester United. Un accord a été trouvé entre la Juve et Manchester United. On parle d'un accord autour de 15 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat de Rabiot à la Juve. En revanche, pas d'accord entre le clan Rabiot et Manchester. Alors, on parle d'écart entre les demandes, notamment ce qui filtre, c'est 9 millions de salaires annuels demandés par le clan Rabiot. Manchester ne veut pas monter au-dessus de 7, donc on est en pleine négociation. Et certaines infos circulent en disant que Manchester veut clore les négociations parce qu'il y a trop d'écart. Alors, est-ce que selon vous, le clan Rabiot, et notamment sa mère qui est agent également d'Adrien Rabiot, est-ce qu'ils ont raison? Ça fait partie de la négociation. Ou est-ce qu'au contraire, Rabiot devrait déjà s'estimer heureux d'avoir un club comme Manchester United qui vient le chercher et tout faire pour que ça se fasse. 32-16, appelez-nous pour participer au débat. Coach, tu te positionnes comment ?
Ah ben je me positionne déjà, je te rappelle ma vision du footballeur Rabiot. C'est une vision d'un bon joueur sans plus. Si tu me demandes une note, je lui mets 11 sur 20 avec 11,5 peut-être quand... il fera une passe décisive de temps en temps dans un rôle quand même de relayeur. C'est pas un rôle de numéro 6. Lui-même, quand on voulait le faire jouer numéro 6, il voulait pas. Donc il voulait jouer relayeur pour marquer jamais un but. Bon, c'est chacun sa vision des choses. Et donc, j'ai une certaine façon de communiquer. Elle est souvent différente des autres, mais c'est la mienne. Et là, au lieu de critiquer, justement, les chiffres que j'entends, je félicite. Je félicite la maman de Rabiot qui arrive dans les négociations à obtenir les chiffres que tu viens de nous donner. Sincèrement, je ne peux que féliciter le joueur, sa maman, qui en même temps son agent, parce que ça me paraît tout simplement extraordinaire et tant mieux pour lui. Et donc toutes mes félicitations.
Oui, alors c'est vrai quand même que Rabiot, il aura peut-être enchaîné Paris, Juve et Manchester United, alors que comme tu dis, c'est un joueur plutôt 11 sur 10. Donc
Oui, mais c'est pour ça que quand par exemple je vois que pour une dernière année de contrat, les clubs se sont mis d'accord à 17.
Ouais, c'est ça. 17 avec les bonus.
Et là, le différent qu'il peut y avoir, c'est quoi? Entre 7 et 9.
Voilà, c'est ce qui sort dans les
médias. D'avoir 7, c'est extraordinaire. Mais je reste persuadé que la maman agent, en insistant, toutes les transactions, depuis que les transactions existent, que ça se passe comme ça, eh ben, il tombera d'accord à 8. Et s'il faut baisser de 17 un petit peu le montant du transfert, eh ben, c'est là qu'il retrouvera le million de différence. Et Rabiot, signé à 8 millions d'euros, mais je suis obligé d'applaudir. Enfin, que tu veux que je dise, ça va pas, c'est dégueulasse. Mais non, c'est extraordinaire.
La saison dernière, il met aucun but, il fait 2 passes.
T'imagines le jour qu'il va en marquer un.
Et la saison précédente, il en a mis 5 quand même.
Ouh, ouh. Alors là, qu'est-ce qui s'était passé?
5 buts et 5 passes D1 en 2021. Donc oui, là, ça allait mieux pour Rabiot à ce moment-là. Lui qui a connu une saison un peu plus compliquée donc à la Juve. La Juve qui a voulu se séparer de lui à un an de la fin de son contrat, notamment pour faire de la place. Hein, c'est pas fait encore, mais à Léo Paredes.
Non, mais évidemment que je taquine et que je me moque un peu. Mais qu'on me laisse ce plaisir. Si je suis à la place de la maman de Rabiot, mais je fais aussi bien, j'en sais rien, mais j'essaie de faire aussi bien parce que je suis en train de vendre un international titulaire de notre équipe de France, championne du monde.
Oui.
Ne l'oublions pas quand même, le 11 de sauver.
C'est comme ça, oui, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut le vendre.
Ma foi, si je profite pas de ça, je vais profiter quand?
Bien sûr. Et puis alors donc, le Daily Telegraph, puisque donc on parle d'un échec avec Rabiot, hein, que Manchester a clos les négociations, et bah du coup, Manchester songerait à faire une offre au Real pour Casemiro. Là, on n'est pas sur le 11 sur 20. Là, on passe d'un standing un peu supérieur.
Mais là, il n'y a pas de somme. Là, on est en train de parler d'un joueur que je crois qu'il y a une clause. Celle-là, elle m'a toujours fait rire. À 1 milliard.
Oui. Bon, après, tu sais, souvent, on est obligé de mettre des clauses.
Attention, Manchester United, ne les taquine pas. Attention. depuis 10 ans, je le disais cet après-midi, ce qui se passe à Manchester United, tu peux t'en servir pour progresser. Parce que moi, j'ai deux tactiques. Hein. Tu peux les raconter. Pour progresser, c'est que je copie sur celui qui fait les choses bien, et je fais le contraire aussi de celui qui fait les choses mal. Oui, donc quand je vois le Manchester United, ce qui se passe depuis l'après Ferguson, j'ai l'impression que si ça avait été des poissons, tu n'avais pas besoin de mettre un verre, tu mettais l'hameçon, ça suffisait, et encore peut-être même le fil sans hameçon, tu les pêches.
T'as raison. Mais là, moi, ce que je comprends pas, c'est que donc, ils ont essayé de faire Rabiot, échec avec Rabiot, du coup, ils veulent faire Casemiro. Bah, c'est peut-être l'inverse qu'il fallait faire, non?
Ouais, puis après, si ça marche pas Casemiro, il y a Vinicius, tu sais, qui est là, on peut passer de Casemiro à Vinicius, c'est au Manchester United, là-haut. Alors,
Casemiro, donc, il lui reste 3 ans de contrat, il a 30 ans, on parlerait d'une somme à 60 millions d'euros pour l'offre de Manchester United. Alors, tu l'as dit, hein, il a une clause libératoire qui est énorme, mais donc, on miserait à Manchester sur le fait que son temps de jeu allait peut-être être réduit avec l'arrivée de Tchouaméni, l'émergence de Camavinga.
Ce qui doit faire peut-être réfléchir Rabiot Family, c'est que si on passe de Rabiot à Casemiro, c'est qu'on considère Rabiot comme un numéro 6.
Oui, t'as raison. Voyons ce qu'en pense Antoine, qui nous rejoint au 32-16 et qui veut débattre autour d'Adrien Rabiot. Salut Antoine.
Ouais, salut à toute l'équipe, salut coach.
Salut Antoine.
Tu les comprends, toi, les exigences de Rabiot?
Bah, en fait, oui et non. Oui, parce que Manchester se retrouve aujourd'hui dans la mouise avec des milieux de terrain. Fred, c'est pas pour moi, c'est pas un 6. McTominay, il a fait un gros match contre Paris. Voilà, c'est pas ouf leur milieu de terrain. C'est pas ronflant. Alors, il a la possibilité de demander plus parce que Manchester est en galère. Personne ne veut aller là-bas. Il dit moi, je vais demander plus pour aller là-bas. Et s'ils veulent vraiment, ils vont payer. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la chose.
Et tu sais qu'ils réfléchissent, excuse-moi, le Manchester United, fais gaffe quand ils réfléchissent, parce que ça fait des dégâts. Donc là, ils vont se dire, attends, qu'est-ce qu'on vient de faire? Je ne me rappelle plus, ça s'est passé hier. Ah oui, ça y est. Donc on a proposé 17 millions pour Rabiot, après on va proposer 60, donc pourquoi pas 70 pour Casemiro. Et finalement, si on s'enlevait les 5 millions des 60 qu'on est en train de demander à Casemiro, et qu'on les rajoute à Rabiot, ça serait pas con, ça, non, quand même? Eh ben, je vais te dire, ils sont capables. Ils sont 24 heures, ils vont passer de Rabiot à Casemiro, de Casemiro à Rabiot. Tiens, Manchester United.
Ouais, mais vous pensez vraiment que le Real va lâcher Casemiro?
Non. Enfin, moi, j'ai du mal à m'imaginer.
Mais même pas une seconde. Même pas si tu leur proposes 150 millions.
Ben, j'ai pas vu pourquoi, mais apparemment, Tchouaméni s'est fait flinguer en Espagne, je sais pas trop par rapport à quoi, ce week-end.
Oui, il n'a pas été exceptionnel.
Et puis, c'est une sentinelle. C'est une sentinelle, c'est un chien, Casemiro, pour le Real de Madrid. Ils vont jamais le lâcher pour aller à Manchester, qui joue même pas une Coupe d'Europe cette année. Enfin, même lui, il veut même pas y aller. Il est sûr d'avoir sa place en sélection du Brésil.
Ouais, mais tu sais, c'est une tactique, peut-être, c'est pour faire peur à Rabiot.
Ouais, mais non,
on va se renseigner de Casemiro. Et là, comme ça, Rabiot va avoir peur avec la maman, et puis là, ils vont être un petit peu moins exigeants.
Bon, Scott.
Attention qu'il y a des stratégies, où?
Ouais, mais non, mais après, moi, Rabiot, c'est un bon joueur. Mais il a le truc du stéréotype bobo français. Ouais, moi, je vais pas me faire mal, je vais pas aller ceci, je vais pas aller me faire mal. Je vais pas me faire mal. Ouais, il a ça, je joue, je fais ce que je peux, je fais pas plus, je fais pas moins. Mais voilà.
Ouais, mais il y a eu, si tu veux, une phrase malheureuse qui lui a fait beaucoup de mal. Parce que je pense qu'elle a mal été interprétée. Quand il rentre, il est tout simplement prudent. Parce que tu rentres, il fait froid, tu n'as pas eu le temps de beaucoup te chauffer. Et donc, il est tout à fait normal que tu sois prudent. Et dans la communication, qui est évidemment quelque chose d'extraordinaire dans cette époque, sur cette planète, le mec, il dit, j'ai eu peur de me blesser. Qu'est-ce qu'il a pas dit?
Il a dit qu'il avait froid.
Tout simplement, il a dit qu'il a eu peur de se blesser, donc il était prudent. Et donc, quand on est prudent, pour moi, ben, c'est pas une connerie, c'est de l'intelligence.
Tiens, coach, j'ai une autre rumeur de mercato autour de Manchester United, puisque le club serait entré dans la danse pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, Chelsea était dessus, mais évidemment, il y aurait Manchester aussi sur le coup. Peut-être pas pour le faire jouer à la place de Casemiro ou Rabiot. Encore que.
Ben écoute, pour moi, voir Aubameyang du côté de Manchester United, après avoir été à Arsenal et au Barça, c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités. Savoir aussi comment il sera utilisé avec quel copain à côté, oui. J'en sais rien, mais c'est sûr que là, tu prends un joueur capable au présent de te marquer une quinzaine de buts minimum par an.
Résultat du sondage sur Twitch, le Twitch RMC Sport, Rabiot est coupable à 84% de ne pas être lucide sur son niveau. Là, vous êtes assez unanime. Antoine, merci d'être venu au 32-16. À bientôt.
Salut, merci Antoine. À vous, continuez comme ça.
Et toi, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu, Antoine.
Merci à vous. Ciao, ciao.
Salut, Antoine. Dans une seconde, comme tous les soirs, avant 19h, dans Rotten sans flamme. Eh bien, c'est le moment de Julien Cazard. Ne ratez pas ça, tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h44, c'est Rotten sans flamme avec Coach Courbis ce soir à 19h. L'ADN OL qui est vendu depuis cet été par Jean-Michel Aulas, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Peter Boss en a parlé aujourd'hui, Edouard G nous racontera tout ça et puis on va débattre autour de Ronaldo. Est-il en train de gâcher sa fin de carrière? 32-16, on aura les infos avec Nico Villas qui sera avec nous tout à l'heure en deuxième heure. Mais tout de suite, comme tous les soirs, avant 19h, place à Julien Cazard.
RMC, Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Nous aborderons un sujet grave, les maladies post-carrière des footballeurs comme Thierry Henry. Thierry Henry dont on parlait, qui a été frappé d'une maladie qu'on appelle la jourdrénosphère. Il est entré dans la jourdrénosphère. Vous vous souvenez de Geoffrey Jourdren?
Ah, évidemment.
Qui à une époque avait voulu nous expliquer ses rapports avec les remplaçants gardiens de son équipe, ça donnait ça.
Je n'ai jamais eu une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Même avec Waze, ils trouvent pas les chiottes.
Donc c'est non mais il met le poulet du dimanche de sa maman.
Ouais, non, c'est compliqué. Je vais te dire, non mais c'est inquiétant parce que je crois que cette maladie vient de toucher Thierry Henry.
Ah bon. Hugo Lloris, maignant ou pas. Faut que tu vises ça. Tu peux être deuxième, tu peux être troisième, mais il faut d'abord viser le podium. Premier, deuxième, troisième, il faut aller chercher cette première place. Si t'as pas la première, tu peux toujours sur la deuxième, la troisième. Ma mentalité, personnellement, c'est toujours aller voir si je pouvais commencer.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette voix là
Alors à mon avis, il a
t'es
dû
enrhumé,
trop.
T'es enrhumé.
Ouais, je pense qu'il avait. Un... Alors, je sais pas qui l'a enrhumé, mais je pense que le cerveau a été touché. Oui. Ouais, voilà. Nous reviendrons. Alors évidemment, nous reviendrons sur les enflammades à Marseille, Milik, Payet, les génies, tout ça. Heureusement, à Nantes, on est loin de tout ça et on a fait la surprise hier. Oui, on a créé la surprise en gagnant avec de l'humilité, avec de la cohésion, un groupe avec des bons petits joueurs de ballon. Ouais, mais il y a pas de, il y a pas des méga ulis génial, machin. C'est une bande de potes. On n'est pas dans l'excès avec eux et à l'after, quand on en parle, ça fait plaisir.
Parce que là, on a l'impression que Nantes s'en remet un peu au génie, entre guillemets, au talent de Kolo Muani. Ouais,
l'inspiration de génie de Kolo Muani.
Je pense que c'est un génie du football français.
Non, mais voilà, il y a eu un éclair de génie tout à l'heure, ça. Son inspiration de génie.
Là, je crois qu'à un moment donné, si même un mec de 20 ans du FC Nantes qui a signé à Francfort, ça devient un génie. Là, va falloir être compliqué. J'ai peur pour Flavien Tay s'il fait une passe D. Tu sais, Jérôme, nous sommes là pour rester vigilants. Et grâce à ton émission, n'empêche que ça calme certains, ils en sont conscients.
Au moins de génie.
Il faut faire attention avec le mot génie en ce moment parce que.
Ah ouais? Pourquoi tu penses hier à Rotten sans flamme?
Voilà. Et oui, ils savent qu'on est derrière et qu'on les attend au tournant. En attendant, hier soir, le FC Nantes a gagné son ticket pour le Stade de France et c'était encore l'occasion de voir Nicolas Palois dans une prestation de haut niveau. C'est vrai, il est pas élégant à la Maldini, à la Nesta, il est un peu bourracho. Mais bon, au final, il est là et c'est ça qui est beau.
Balance la loi! La balle, elle revient! Oh merde! Même une sacoche vers les gradins! Et elle s'accroche à ce putain de terrain! Et Mbappé! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'accélérer! Moi, je peux pas l'arrêter! Tant pis, je balance les pieds! Il aura bien cherché de s'enculer! Pas loin! T'es pas loin! T'étais où? Pas loin! J'étais avec du bouton! Pas loin! Tu dis où? Mais dans les gradins du coup, mais j'ai pas le choix! Pas loin! Tu tires où? Mais c'est parce que Fabio, il suit pas les mecs! Montez! Mais montez! Oh putain, mais les mecs, ils vont trop vite aussi! Moi, je vais te faire de feu! Putain! Dans les pieds, tu veux que je vise quoi? Il est marrant lui. Chier aussi. Tu tires où? Pas loin. Mais je tire. Déjà, si j'ai le ballon, c'est déjà bon.
Nico, pas loin.
Mais je reviens. Mais putain, je suis cuit. Il n'y a pas de prolongation là, je peux plus, je suis mort.
On l'embrasse, Nico Palois.
Le casar enchaîné.
C'est le 7 mars 1976 que pour la première fois, une star de la pop, Elton John, est entré au musée de cire de Madame Tussaud. Ouais. Et oui, Madame Tussaud, ce fameux musée de cire à Londres, on a l'équivalent en France, tu le connais?
Ouais.
Le musée de cire.
Grévin.
Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui qui est porte d'Auteuil, celui que les touristes viennent, tu sais. Alors là, en ce moment, il y a Sergio Ramos, il est encore en restauration, mais c'est juste pour dire aux gens que vous pourrez bientôt le visiter avec Messi, avec tous les autres. C'est aussi le 7 mars qu'est sorti le tube We Are The World, vous connaissez We Are The World, qui à l'époque était un hommage à une région sinistrée du monde, c'était le nord de la France, bien sûr, souvenez-vous.
Non. Moi, je suis Portland. Je suis sans et or in my heart. Tout mon chômage, il va dans ma place à Bollard. Quartier ultra de Lille, que tu t'entaches un jour. Deux mois plus tard, il est à Nantes ou à Francfort. We are the Schnorr, we are the Stimmy. On est du Schnorr et on est tous des frères et cousins aussi.
Oh,
quand tu supportes Calais, Valence et Lens ou Lille, t'en oublies presque que même le 15 août y fait gris. J'aime Valenciennes comme ma mère, comme mon gazelle. Mais ma légende, à moi, s'appelle Wilfried Goël.
Ah oui.
Il y a Ibourouchaga, champion du monde, mon frère, avec sa prime, dans le jardin de Christophe Robert. We are the Schnorr, we are the Stimmy. On est du Schnorr et on est tous des frères et cousins aussi. Quand tu supportes Calais, Valence et Lens ou Lille, t'en oublies
presque que même le 15 août y fait gris.
Merci à tous ces grands Bravo. Chanteurs du monde entier.
Jean Baumel était dedans, j'ai l'impression.
Ah bah il y avait Gibault.
Oui, on est en acte.
Toujours, à chaque fois, tu perds un dixième. Bon anniversaire à Marisol Touraine, ancien ministre de la Santé. Alors, c'est la question à Géraud. Marisol Touraine, qui était élue dans la...
Dans la
Touraine.
Dans la Touraine. Oh, il est pas, à chaque fois tu te fais avoir. C'est toujours un mec qui répond à ta place. Alors qu'il est né dans le 13e. Aucun rapport.
Ah oui.
C'est improbable, mais c'est vrai. C'est surtout l'anniversaire.
La cousine de Karl Touraine, avec qui j'ai joué.
Ah, bien sûr. Ouais. Qui vient de
Touraine.
De Touraine, bien sûr.
De Touraine. Ouais, ouais.
Vraiment.
Il
est
du 16e.
Non, du Nord des Deux-Sèvres.
C'est vrai, en plus. C'est vrai. C'est génial. C'est surtout la Touraine, dès que tu t'appelles Touraine, hop, il t'appelle. C'est surtout l'anniversaire de Hatem Ben Arfa, celui qui va permettre à Lille de renverser le score face à Chelsea. Hatem Ben Arfa qui est toujours en litige juridique, on en parle pas assez, depuis qu'il est arrivé en retard en entraînement à Marseille, vous vous souvenez ?
Avec l'aéroport.
Il est en litige, rappelez-vous, le litige.
Justement, je vais avoir gain de cause. Je vais porter plainte contre l'aéroport qui va me rembourser tout ce qui s'est passé parce que moi, je suis venu à l'heure, il n'y avait pas de souci et il y a eu une erreur informatique qui s'est fait que j'ai loupé l'entraînement.
Voilà. Il y a très peu de mecs qui disent excusez-moi coach, c'est à la faute de l'aéroport. Ils sont très rares. Ils sont très rares.
Le casar enchaîné.
Nous reviendrons sur la débâcle lyonnaise au Groupama Stadium, une entame de match complètement ratée, comme nous le témoignait pendant le direct notre correspondant à Lyon, Edouard G.
RMC et Groupama vous présentent la vision de Doudou.
Eh bien, du côté du Groupama Stadium à Lyon, il y a vraiment une très belle ambiance. Tout se passe pour l'instant très très bien pour l'Olympique Lyonnais. Un début de feu de Dieu. Peter Boss rayonnant, tout sourire, bronzé, cheveux au vent sur son banc, qui apprécie un beau spectacle avec un grand Anthony Lopez, toujours au top. Magnifique Lucas Paqueta qui fait oublier Juninho. Et une prestation de haut vol de Karl Toko Ekambi qui nous rappelle le grand Govou de la plus belle des périodes. Ça sent bon pour ce soir. Un Olympique Lyonnais tonitruant qui se relance plus que jamais dans la course au titre du côté du Groupama Stadium.
C'était la vision de Doudou avec RMC et Groupama.
Des choses sur lui en ce moment.
Juste pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut se faire le casar enchaîné vendredi.
Voilà. Pardon. J'ai pas la référence, je suis désolé.
Doudou a une petite tendance à embellir les choses quand c'est l'Olympique Lyonnais. Mais après, voilà, c'est la vision positive, comme disait. La chanteuse de la positive attitude, toi, Laurie. Ta génération. Laurie, bien sûr, elle est de chez toi en plus, elle est de Compiègne.
Ah bon ?
L'Olympique lyonnais, ça devient de plus en plus. Non, mais c'est vrai que là, ça devient de plus en plus difficile de diagnostiquer d'où vient le mal. Un grand président, un bel effectif, un super coach, j'ai l'impression que l'OL se saborde lui-même. Et bien, sur RMC Sport, on avait diagnostiqué, que le pire adversaire de Lyon, c'est Lyon lui-même.
Alors c'est vrai que l'Olympique Lyonnais a un gros match hein, ce week-end. Ce sera dimanche à 17h sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais.
Là, ça devient grave. Les mecs, ils jouent contre eux. Tu m'étonnes qu'ils s'en sortent pas. Et oui, c'est vrai qu'on ne sait plus si Lopez joue contre Lyon. Pareil pour Toko Ekambi et Léo Dubois. Nous aborderons bien entendu la crise du PSG qui fait non seulement rire Eric, bien sûr, mais chauffer les têtes chez les supporters comme les observateurs. Vous vous souvenez que Daniel El Khelaifi, Riolo, se voyait déjà amener le PSG sur le toit de l'Europe. Heureusement, le week-end a fait du bien. Il est redescendu. Hier soir dans l'after, il était beaucoup plus lucide.
D'ailleurs, ça me permet de redire que je suis disponible.
Je suis candidat.
Mais je ne plaisante pas.
Non.
Quel est le diplôme nécessaire pour être président d'un club de foot ? Est-ce que Jean-Michel Aulas avait des connaissances en football quand il a pris Lyon ? Est-ce que Bernard Tapie avait des connaissances en sport avant de se lancer dans le vélo ?
Vers l'infini et au-delà !
Il est parti, Buzz. Buzz l'éclair. Il est lancé. Qu'est-ce que j'ai de moins que Bernard Tapie et Jean-Michel Aulas en termes de management ? J'arrive à me gérer. C'est vrai que le mec, il arrive à se gérer lui déjà. C'est quand même énorme. C'est quand même magnifique. C'est vrai qu'il a à peu près géré autant de gens, managé autant de personnes. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Nous reparlerons bien sûr de cette 28e journée du championnat. Le Paris Saint-Germain peut rejoindre l'ASSE au palmarès du nombre de titres. Parce que personne n'en parle.
Palmarès de
du nombre de titres de champion.
Ouais.
Le Paris Saint-Germain peut atteindre les 10 titres de champion de France. C'est un événement RMC.
Opération Paris, super champion de France. RMC et toute la rédaction de RMC Sport se mobilisent pour soutenir le Paris Saint-Germain dans sa quête incroyable d'un 10e titre à l'image de l'ASSE pour enfin devenir le plus...
Qu'est-ce que tu fais là ?
Eh ben, c'est l'opération 10 titres pour Paris, parce que vu qu'ils égaliseraient par rapport à Saint-Etienne.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, c'est une équipe de crevards. De toute façon, plus personne s'y intéresse, ici, même Messi. Non, non, on mise tout sur l'OM, là. Milik, Milik, Milik. Mais opération Milik rattrape Lewandowski. Ça, c'est bien, ça.
C'est pas un peu gros, non?
Ben si, mais on est RMC, non?
Oh, les mauvaises langues.
C'est Karim Nedjari, ça?
Oui, oui, c'est un genre de quoi.
D'accord.
Le Casar enchaîné.
Julien Casar qui sera de retour lundi en direct, bien sûr. Et les meilleurs moments seront de retour demain avant 19h. Dans une seconde, l'ADN OL. Est-ce que ça va vraiment fonctionner selon vous? Peter Boss en a parlé aujourd'hui. On va débattre aussi autour de Cristiano Ronaldo et du mercato niçois dans la deuxième heure de Rotten sans flamme avec Coach Courbis ce soir. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.